les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. À 15 km du continent, Belle-Île est située face à la côte du Morbihan, au niveau de la presqu'île de Quiberon. Pour ce nouvel épisode, et depuis le précédent, nous sommes sur la côte sauvage, au nord-ouest de l'île, à l'Apothicairerie. Site où se trouve la réserve naturelle de Caucastel, que nous parcourons avec notre guide, Robin. Et notre marche nous mène à une pointe.
Donc là, on arrive sur la pointe de l'Apothicaire avec la grotte.
En fait, la grotte, elle est sous nos pieds, là. Il y a une entrée de ce côté-là et une entrée de l'autre côté. Donc on va aller voir l'autre côté, parce qu'il n'y a personne et ça tombe bien.
Donc là, sous nos pieds, on a l'eau.
Ouais, là, sous nos pieds, on a de la roche et de l'eau, essentiellement. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, en général. Une autre plante que vous connaissez sûrement. Alors là, elle est sur la fin de sa période de floraison, mais d'habitude, elle est comme ça, en fait. Maintenant, on la voit surtout comme ça. C'est l'armérie maritime, donc c'est une petite plante qui fleurit principalement au début du printemps et jusqu'au début de l'été, qui est vraiment typique des pelouses littorales, donc on retrouve essentiellement sur ces milieux-là et quasiment pas ailleurs. Donc c'est vraiment une plante, pour le coup, que vous retrouverez au bord de la mer et sur des falaises, comme ça, pas forcément, pas en plage ou ce genre de choses, il faut qu'il y ait du caillou en dessous, ce genre de milieu. Donc là, sous vos pieds, il y a un tunnel assez large, assez haut et avec de l'eau en dessous. Donc on est vraiment au-dessus du passage de la grotte. Là. On en distingue un morceau là qui rentre un peu plus. Donc ce que je vous propose de faire, j'ai regardé, là il n'y a pas trop d'oiseaux qui sont posés. D'habitude il y en a quelques-uns ici, donc on va pas forcément faire un arrêt long. Mais on peut aller de l'autre côté là, comme ça vous verrez l'entrée de la grotte dans l'autre sens. Là, c'est béant.
Ah ouais.
Alors voilà.
Si, il y a des paliers.
Ouais.
Attention, il y a un petit déroulement de la palette.
Donc la grotte de l'Apothicaire, elle a tiré son nom des oiseaux. Donc c'est aussi intéressant de voir que le milieu naturel influence souvent les noms qu'on donne aux lieux-dits. Et en fait, ici, il y avait avant une colonie de cormorans huppés. Alors, c'est pas les grands cormorans que vous voyez dans les ports, là, qui se sèchent les ailes avec un bec jaune. C'est des cormorans un peu plus petits qui sont essentiellement marins. Donc, on retrouve vraiment sur les îles, et voilà. Et en fait, ils avaient l'habitude de nicher ici. Alors, ils étaient pas mal, hein. Il y en avait un sacré nombre. Et ils nichaient sur la paroi que vous avez à l'entrée de la grotte, là. Et de l'autre côté, pareil. Et en fait, quand ils nichent, ils sont sur des petits blocs de pierre un peu qui ressortent. Et bah forcément, ils font leur déjection à cet endroit-là aussi. Et c'est très blanc, ce que produit le cormoran. Et en fait, ça avait tendance du coup à couler en dessous. Et alors là, c'est pareil, il faut beaucoup d'imagination. Et moi, j'ai jamais vu d'apothicaire, donc je pourrais pas vous dire. Mais en fait, les gens, ça leur faisait penser à des bocaux d'apothicaire qu'on voit dans le fond d'étal d'une boutique, voilà, dans le temps. Alors, si quelqu'un a déjà vu un apothicaire...
C'est comme ça que le nom est venu, en fait.
Oui.
C'est apothique, ça veut dire... En grec, je crois, ça veut dire pharmacien.
Oui, c'est ça. Oui. C'était la fonction.
Les tiroirs de la pharmacie, parce que c'était essentiellement des tiroirs, les apothicaires.
En tous les cas, c'était lié à la fonction de cette boutique de l'apothicaire. Et par contre, les cormorans, du coup, sont plus là de nos jours. Parce que, en fait, cette grotte, vous voyez, elle était en accès libre là, pendant un bon moment. On voit l'escalier encore qui est là. Elle a été fermée pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a eu des accidents, en fait. C'est toujours les histoires de dérives qu'il peut y avoir quand on laisse en accès libre un endroit, si on y va de manière sans prendre de précautions, tout simplement. Après, les endroits ne sont pas forcément dangereux, tous ceux qui sont interdits. Hein. Mais c'est juste que voilà, si on ne prend aucune précaution, forcément, ça peut provoquer des accidents. Et... Donc là, maintenant, elle est interdite d'accès par arrêté préfectoral. Donc la grotte de l'Apothicaire. Alors, il n'y a plus les cormorans, essentiellement à cause du passage, il n'y a plus de nidification à cet endroit-là, quoi. Et alors la roche que vous voyez qui fait donc ce massif-là, c'est la roche qui est à l'origine du massif armoricain en règle générale. C'est du schiste en fait. Alors il y a plusieurs types de schiste, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est extrêmement compliqué. C'est pas le même qu'il y a à Groix. Groix, c'est une autre type de roche qu'on a là-bas, le schiste bleu. Le schiste, c'est une roche qui fait des plaquettes, hein, donc des espèces de feuillets comme ça. Et généralement, ce schiste, il a subi toutes les déformations qu'il y a pu avoir à la création d'un massif montagneux. Ce qui explique qu'on peut voir encore, justement, par exemple, quand vous regardez en face, là-bas, là, il y a une grosse cassure en plein dans, dans la dernière pointe qu'on voit là. Et donc c'est ce genre de structure-là qui témoigne en tout cas de l'activité géologique passée du site. Et il faut savoir que le massif armoricain, avant, c'était quand même un massif de l'envergure de l'Everest. Hein. C'était un des plus hauts massifs du monde à l'époque où les continents étaient encore rapprochés. Donc à l'époque de la Pangée, en fait. C'est quelque chose d'assez énorme. Et du fait de l'érosion, alors principalement de l'eau et du vent, ce massif a régressé petit à petit, quoi. Mais ça reste, on retrouve des traces évidentes d'une roche qu'on aurait pu trouver maintenant à plusieurs kilomètres d'altitude. C'est assez surprenant quand on s'intéresse à la géologie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir là à droite et on va reprendre le chemin là qui retourne vers la colonie d'oiseaux. Et voilà.
On va jusqu'à
Starwood. Oui, oui.
Qu'est-ce qui explique qu'elle est complètement déchiquetée, comme ça, avec plein de petites criques?
Bah alors ça, c'est essentiellement dû à la nature de la roche, dans le sens où le schiste, c'est une roche qui est très friable, en fait. Ce qui fait que, face aux éléments, elle a une résistance qui est toute relative. Et ça explique aussi ces phénomènes-là. En plus, le schiste n'est pas... On n'a pas uniquement du schiste. On a du schiste, mais on a des blocs d'autres choses. Et en fait, ça crée des faiblesses dans la roche, ce qui explique que ça fasse autant de relief, quoi.
Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île-en-Mer.
Sortie nature avec Robin à la réserve de Cocastel sur le site de la Potiquairerie.
Alors là, vous avez une des plantes les plus représentatives de ce milieu, puisqu'elles ont donné le... En fait, quand on cherche à déterminer un milieu, on le caractérise avec des codes, en fait. Et ces codes-là sont liés aux plantes qu'on va retrouver. Ici, vous avez une bruyère, là, qui est la bruyère vagabonde. Alors, c'est une espèce qui est extrêmement rare. On la trouve ici, essentiellement, à Belle-Île, et aussi à l'Île-Dieu et à l'île de Groix, en fait. Donc, c'est une espèce quasi endémique. Et donc, ces landes-là que vous voyez sont dites des landes littorales à bruyère vagabonde. Voilà, c'est l'intitulé général du milieu. Et donc c'est cette plante-là qui permet de caractériser le milieu dans son ensemble. Alors on va parler un peu de l'adaptation des plantes par rapport aux conditions qu'on a. Justement, on en parlait là avec une dame. Les plantes, ici, elles sont soumises à des fortes conditions climatiques. La chaleur, généralement, là, nous, à la hauteur de notre tête, il fait un bon 28. Ou un bon 26, au sol il fait à peu près une température proche des 50 degrés. Donc vous voyez que la différence est assez significative et du coup les plantes ont besoin d'avoir des outils de résistance et des outils de défense par rapport à cette... C'est une forme d'agression finalement. Alors une des stratégies qui est développée, c'est de faire des touffes. On voit, elles se regroupent par endroits et elles font vraiment des buts. C'est le cas aussi pour l'armerie là, que vous avez en bord de chemin, ça fait des espèces de coussinets là. Et alors cette technique-là, en fait, elle a deux avantages assez particuliers. C'est que quand les pieds sont concentrés à un endroit comme ça, ils peuvent remonter un peu, ça les sort un peu de la zone rouge, entre guillemets, des 50 degrés. Et ça va leur permettre de garder beaucoup plus d'eau en leur centre, en fait. Puisqu'ils sont tous agglomérés les uns aux autres, les pieds, ça fait une sorte d'isolation et ça évite que l'eau s'évapore trop rapidement. Et donc du coup, ça leur permet d'avoir... Ça va pas être sous la forme d'une poche d'eau telle quelle, mais elle sera un peu plus humide à cet endroit-là, en fait. Donc ça leur permet de résister. Et aussi, cette forme-là, bah, c'est un peu pareil que vous. Quand il fait un très grand vent, vous pouvez avoir tendance à vous serrer les uns contre les autres. Et bah, c'est la même chose. Les plantes, elles se rassemblent en pied, là, pour alors à la fois se tenir chaud, mais aussi avoir une prise suffisante par rapport au... Parce que des fois, on peut avoir vraiment des vents à vous en déraciner pour une plante. Et du coup, elles se regroupent, ça leur permet d'avoir une meilleure tenue, en fait, au sol. Donc c'est le cas pour l'armerie. La bruyère, vous voyez qu'elle a à peu près la même stratégie là au final. On voit que c'est surtout des petites touffes à droite à gauche. Donc voilà, c'est essentiellement le fonctionnement de ces plantes-là. Et on parlait de l'herbe là, qu'on a, qui caractérise le littoral généralement, qui est très fine. Là. Ça, c'est de la fétuque. Donc c'est une graminée, hein, comme toutes les herbes que vous pouvez rencontrer. Mais c'est vrai qu'elle a la particularité d'être très très dense, très très fine. Et en fait, les brins du dessous forment un espèce de tapis, en fait, ce qui explique que ce soit souvent très confortable quand on s'assoit dessus. Et qu'on a souvent envie de faire des siestes au bord du littoral. Voilà. Et ça, c'est une autre petite plante. Alors, pour les plus... Ouais, ça ressemble au genêt, on est d'accord. Et si, c'est ça. C'est du lotier. C'est ça, le lotier corniculé. Donc, c'est une plante qu'on retrouve ici, et c'est la famille des pois, en fait. Donc, c'est les fleurs de pois, pois de senteur, pois de... Et c'est également les fleurs qu'on peut retrouver pour une plante locale, au niveau régional au moins. C'est l'ajonc, donc c'est la même famille aussi que l'ajonc. Donc le lotier corniculé, c'est les fabacées, ces plantes-là.
Les landes à bruyères vagabondes forment le joyau naturel de Belle-Île. Ce drôle de nom est lié au fait que le pistil est à l'extérieur de la corolle de la fleur. Cette caractéristique permet au pollen d'être semé à tout vent. Les bruyères se mélangent sur les landes à l'ajonc, mais également avec les fougères.
La fougère est... une espèce qui envahit le littoral de manière générale. Ouais. Et c'est une espèce qui généralement fait l'objet de mesures de gestion, donc de fauches, la plupart du temps. Mais après, vous imaginez bien, sur un milieu comme ça, s'il y a de la fougère, pour l'enlever, c'est du travail à la main, parce qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas de... Même les bêtes, c'est très très difficile à faire venir ici.
Vous avez mis des chèvres à cet endroit, j'ai vu.
Oui. Alors le pâturage animal, c'est une solution qui est de plus en plus mise en avant, ouais. Parce que ça a un coût économique relativement faible. Et ça peut aller à des endroits où les machines sont incapables d'aller. Même, alors ici ça va encore, mais faire passer une barre de coupe dans un milieu où il y a de la rocaille, c'est prendre un très gros risque pour son matériel quand même. Et la plupart du temps, on se rend compte que les animaux fournissent. Le même effet, c'est même un peu mieux parce qu'ils ne vont pas être aussi radical et maniaque, entre guillemets. Une barre de coupe, ça coupe tout, partout, à la même hauteur. Les animaux, ils vont couper à certains endroits, ils vont laisser un endroit où il y en aura un peu plus, un endroit où il y en aura un peu moins, une petite cuvette, un petit... Et c'est cette diversité-là qui est intéressante et qui fait que généralement, après, quand ça repousse, il y a une diversité vraiment encore plus importante qu'il pourrait y avoir avec une barre de coupe. Ou... Voilà. Donc c'est vrai que c'est des solutions qui sont mises de plus en plus en avant. Ouais. Et donc les animaux n'ont pas cet effet-là, et puis on peut leur faire des rotations, en fait. On les change de parcelle en fonction de la hauteur de végétation. Quand on voit que ça commence à être trop fauché et trop brouté, on les change d'endroit. Et voilà, ça permet de faire vraiment des choses un peu à la demande, et qui donnent des résultats aussi diversifiés, quoi. On n'est pas sur de l'homogénéisation totale. Et alors ça appartient soit aux associations qui sont gestionnaires des sites, et ça peut être, dans un deuxième cas qui est de plus en plus présent également, en convention avec des agriculteurs. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ces milieux-là, on leur dit, si vous avez des bêtes et qu'elles ont besoin de nourriture à une certaine période, vous les mettez sur ces terrains-là, de temps à temps et sur celui-là, de temps à temps sur celui-là, et puis voilà. C'est des conventions comme ça. Ça permet de rendre service à tout le monde dans un sens aussi. Quoi. Eux, ils nous rendent service en faisant pâturer leurs bêtes. Et nous, c'est la nourriture gratuite, entre guillemets. Quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est des avantages aussi qu'on en tire. Et puis eux, ils ont la connaissance de l'animal et du pâturage, ce que les gestionnaires n'ont pas forcément dès le début. Et donc ça reviendrait limite aussi dans un sens trop cher d'acquérir ces compétences-là, parfois, de gestion d'un troupeau, tout ça. Donc c'est vrai que c'est des arrangements qui sont faits de plus en plus et qui sont vraiment assez intéressants. Ouais.
Les chèvres n'ont pas de prédateurs ici ?
Non, alors ici, s'il y avait un prédateur, ce serait le chien. Les plus gros problèmes, c'est la plupart du temps, on se rend compte avec des chiens errants. Il y a des chiens errants qui font plonger des troupeaux dans des ravins. Donc de toute façon, à Belle-Île, il n'y a quasiment pas de renards, ou même pas du tout, aux dernières estimations en tout cas. Par contre, il y a plein de lapins. Facteur d'érosion supplémentaire d'ailleurs pour ce genre de milieu. Mais vous en avez au pied des traces, oui. Les petites boules là, c'est les crottes de lapin. Les lapins ici, je ne sais pas s'ils sont chassés sur Belle-Île, par contre on dit qu'ils ont la myxomatose. Et donc les populations s'autorégulent d'une certaine manière, dans le sens où y a pas mal de lapins qui meurent de la myxomatose.
Nous laissons les lapins gambader sur la lande, et nous nous séparons jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au revoir, et à très bientôt sur cette même antenne pour la suite de notre escapade à Belle-Île-en-Mer.